Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je me présente, je m'appelle Alain et dans Open Blues, je vais vous parler de blues bien sûr, mais je vous propose de l'évoquer au travers des principaux albums parus entre 1965 et 1975, période des tubes allant de Satisfaction interprété par les Rolling Stones jusqu'à Hotel California et cette fois par les Eagles. D'après moi et quelques autres, c'est la période en or pour la musique moderne. Surtout qu'à ce moment-là, le blues est l'influence principale des artistes dont nous parlerons. Or, ceux-ci ne se sont jamais laissés enfermer dans un style musical unique et figé, ce qui rend l'étude de cette période encore plus intéressante. L'innovation musicale et la diversité sonore, en effet, n'auront jamais été plus originales qu'à cette époque-là. Aussi, je vous parlerai d'albums studio ou live et de temps à autre de compilations qui méritent, à mes oreilles, d'être présentées dans ce programme. Comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs. Everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from a job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Come on. Je vous propose donc de commencer cette saison avec les auteurs de I Can't Get No Satisfaction, à savoir les Rolling Stones, au travers d'une compilation de leurs titres parus d'abord en Europe sous forme de singles, en France on parlait de 45 tours, puis dans des compilations sur disques 33 tours. Parfois certains titres ont fait partie d'albums parus aux États-Unis, mais pas en Europe, et réciproquement. Cette compilation montre ce qu'étaient au départ les Rolling Stones, des fans absolus de blues, menés par un Brian Jones, puis progressivement par les fabricants de hits que sont devenus Mick Jagger et Keith Richards. En fait, ils recherchaient de nouveaux sons et de nouvelles façons de jouer le blues, plus rock, plus excitant. Ce qui les mena à leur premier énorme tube, puis ce seront des titres qui prouvent l'inventivité des Stones, tous parus sous le label Decca de London de 1963 à 1968. Certains titres vont sûrement vous surprendre, mais tous sont constitués un moment important pour les Rolling Stones, et c'est pour ça que je veux en parler. Make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on, I wanna see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on. Nous allons commencer ce parcours par I Wanna Be Your Man. Je vais être ton homme. Qui est une chanson écrite par John Lennon et Paul McCartney en 1963. Composée à l'origine pour Ringo Starr, mais laissée inachevée, elle est dans un premier temps cédée aux Rolling Stones qui la sortent en single. Il s'agit d'un des premiers succès pour les Rolling Stones, puisqu'elle se retrouvera en 12e position des charts britanniques. Elle pousse également Mick Jagger et Keith Richards à composer désormais leurs chansons, comme le semblent le faire très aisément les Beatles. En effet, Mick Jagger dira plus tard combien il avait été impressionné par la facilité avec laquelle Paul et John avaient composé cette chanson. Cela lui confirma qu'il était, avec Keith, capable de composer. Selon Steve Turner, qui est un journaliste anglais, John Lennon et Paul McCartney rencontrent Andrew Luke Oldham, manager des Rolling Stones, encore débutant, en septembre 1963. Andrew explique qu'il est à la recherche d'un titre pouvant faire office de single pour ses protégés. Et McCartney lui propose donc I Wanna Be Your Man et l'interprète devant les Rolling Stones pour les convaincre. Brian Jones, qui en est encore le leader, se montre satisfait de la chanson, mais il est gêné qu'elle soit inachevée.
Qu'à cela ne tienne, le duo de compositeurs se retire dans une pièce voisine et revient peu après avec la chanson terminée. Dans une interview de 1994, McCartney rapporte cependant que ce sont Mick Jagger et Keith Richards qui lui ont personnellement demandé la chanson. Enfin, ça, c'est un détail. S'il la conserve tout de même comme chanson pour Ringo Starr, destinée à leur album With the Beatles, Lennon et McCartney ne considèrent pas I Wanna Be Your Man comme une grande chanson. Comme l'explique John dans une interview, on n'allait pas leur donner quand même quelque chose de génial, non ? C'était I Wanna Be Your Man par les Rolling Stones sur OxyWeb Radio. La chanson suivante que je vais vous présenter s'intitule Not Fade Away, qui se traduit par Ne faiblis pas. C'est une chanson écrite par Buddy Holly et Norman Petty, enregistrée par Buddy Holly avec son groupe The Crickets en 1957. Elle est construite sur une variante du Bo Diddley Beat, rythme popularisé par Bo Diddley. En 1964, la reprise que va faire les Rolling Stones conserve le battement fort de Bo Diddley, mais elle fut surtout un hit important en Grande-Bretagne et aux USA. Ce qui fait que ce hit est finalement leur premier véritable hit, aux États-Unis notamment. Enregistré en janvier 1964 et sorti en février 1964 en Grande-Bretagne, il atteignit la troisième place du hit parade dès le mois de mars. Aux USA, le disque atteint la 48e place sur les 100 meilleures chansons du moment. Il a également fait un carton en Australie et Not Fade Away n'était pas sur la version britannique de leur premier album, The Rolling Stones, mais était le premier titre sur la version sortie aux USA. Les Stones, en fait, étaient annoncés comme les nouveaux hitmakers venus d'Angleterre. Et cet album intrigua aux États-Unis. C'était un titre qu'ils jouaient souvent sur scène, puis il fut retiré avant de réapparaître au début des années 90 et la période Voodoo Lounge. Vous ferez attention à l'utilisation des deux guitares acoustiques soutenues par la basse et la batterie pour reproduire justement le son caractéristique de Bo Diddley. Le claquement des mains assuré par Mick Jagger est encore original à l'époque. Enfin, l'harmonica donne une forme un peu bluesy de ce morceau, un peu oublié aujourd'hui, mais dont le rythme séduit toujours lorsqu'on l'écoute. C'était Not Fade Away par les Rolling Stones sur OxyWeb Radio. Autre chanson importante pour les Rolling Stones, encore débutants, avec It's All Over Now, qu'on pourrait traduire Tout est terminé maintenant, qui est une chanson écrite et composée par Bobby et Shirley Womack. Elle fut enregistrée pour la première fois en 1964 par The Valentinos, groupe entièrement composé de membres de la famille Womack. En juin 1964, les Rolling Stones découvrent la chanson durant leur première tournée en Amérique du Nord, lors d'une émission de radio où le DJ, Kay Murray, leur fait écouter ce titre. Les Stones décident d'en faire une reprise, mais il faut d'abord obtenir l'accord des auteurs. Or, quelques années plus tard, Bobby Womack avoua qu'il avait été voir son ami Sam Cooke, un célèbre interprète de soul music aux USA, pour lui dire qu'il s'opposait à ce que les Stones en fassent leur propre version. Il avait même dit que Mick Jagger n'avait qu'à faire une autre chanson à lui à la place. Sam Cooke l'a convaincu de laisser faire la version par les Rolling Stones, et 6 mois plus tard, après avoir reçu les premières redevances ou royalties pour la chanson, Bobby Womack déclara à Sam Cooke que Mick Jagger pourrait désormais reprendre n'importe quelle autre chanson qu'il voulait. Et oui, évidemment, avec l'argent qui rentre à flot, on change d'avis facilement. La version des Rolling Stones de It's All Over Now est la version la plus célèbre de la chanson. Elle a été sortie pour la première fois en tant que 45 tours au Royaume-Uni et elle a pointé à la première place et elle en a fait de même aux États-Unis. Dans son autobiographie, en 2010, Keith Richards indique que John Lennon a critiqué son solo de guitare. Et avec le recul, eh bien, il reconnaît que ce n'est pas son meilleur. En même temps, c'est pas du tout l'avis de Bruce Springsteen et beaucoup d'autres fans qui l'aiment beaucoup. Well, baby used to stay out all night long. She made me cry. She done me wrong. She hurt my eyes open. That's no lie.
Because I used to love her, but it's all.
C'était It's All Over Now par les Rolling Stones sur OxyWeb Radio. Avec Little Red Rooster, les Rolling Stones rentrent enfin de plein pied dans le blues. C'est une chanson de blues écrite et composée par Willie Dixon, membre de la fameuse équipe Chess Records de Chicago. Elle est enregistrée pour la première fois en 1961 par Howlin' Wolf. Sa reprise par les Rolling Stones se classe numéro 1 des ventes au Royaume-Uni en décembre 1964. Après It's All Over Now, c'est le deuxième numéro 1 pour le groupe. Le petit coq rouge, c'est des traductions du titre, est un véritable standard du blues. Howlin' Wolf l'a enregistré dans le style du blues de Chicago. Son jeu vocal et de slide à la guitare sont des éléments clés de la chanson. Il est enraciné dans la tradition du blues, du Delta, Mississippi bien entendu, et le thème est dérivé du folklore, tout ce qui plaît aux Rolling Stones. Les antécédents musicaux du Little Red Rooster remontent aux années 30, à l'époque de Charlie Patton, Memphis Minnie. Un grand choix de musiciens l'a interprété, certains ajoutant de nouveaux mots et instrumentations pour imiter les bruits des animaux mentionnés dans les textes. Les Rolling Stones ont été parmi les premiers groupes de rock britannique à enregistrer des chansons modernes de blues électrique façon Muddy Waters, Howlin' Wolf ou encore Sonny Boy Williamson le second, et voire même bien sûr Willie Dixon. En 1964, les Stones ont donc enregistré The Little Red Rooster avec Brian Jones jouant le chorus, ce qui n'est pas si fréquent. C'était finalement les quatre premiers morceaux que je souhaitais vous présenter pour bien vous montrer les racines blues et sinon rhythm and blues des Rolling Stones avant de rentrer un petit peu plus profondément dans le sujet.
The little red rooster, too lazy to crow for day. I am the little red rooster, too lazy to crow for day. Keep everything in the farm yard upset in every way. The dogs begin to bark, hounds begin to howl. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Watch out, strange camp people, little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. In the farmyard since my little red rooster's been gone. Oh,
C'était Little Red Rooster par les Rolling Stones sur OxyWeb Radio. Quand je dis rentrer dans le vif du sujet, c'est aborder la période où tout va exploser pour les Rolling Stones. En effet, avec I Can't No Satisfaction, c'est l'une des chansons les plus connues du groupe, bien entendu, qui la joue systématiquement sur scène encore aujourd'hui. Mais c'est aussi un titre pop emblématique des années 60, une sorte d'hymne de l'adolescence, un manifeste pour cette nouvelle classe sociale constituée par les teenagers issus du baby boom qui se révèle dans l'après-guerre. L'idée du riff est venue dans la tête de Keith Richards pendant qu'il dormait dans un hôtel de Londres. Se réveillant la nuit pour enregistrer son idée et ne pas la perdre, il se mit à jouer le riff à la guitare acoustique. Puis se rendormit en laissant la bande tourner et enregistrer ses ronflements. C'est pas une petite histoire. Ainsi, au début, la chanson sonnait comme une chanson folk. Keith Richards ne voulait pas en faire un single. Il trouvait que le riff ressemblait trop à celui de Dancing in the Street de Martha and the Vandellas. Le morceau est enregistré donc une première fois en mai 65 au studio Chess à Chicago, puis deux jours plus tard à Los Angeles dans les studios RCA. Keith Richards ne voulait pas mettre de l'effet fuzz sur le riff, l'effet saturé à la guitare, mais plutôt une section de cuivre, et il réservait l'effet fuzz pour une version ultérieure éventuelle. Au départ, le son fuzz de sa guitare devait simplement souligner les cuivres. D'autre part, au lieu du rythme martelé qui caractérise l'enregistrement final, Keith Richards était en faveur d'un tempo rhythm and blues plus enlevé, anticipant finalement ce qu'Otis Redding fera peu après sur sa propre version. Et ce sont finalement le manager des Stones, Andrew Lug Oldham, et l'ingénieur du son, David Essinger, qui poussèrent le groupe à sortir cette chanson en single avec l'effet saturé dit fuzz pour la guitare de Keith, et ça a donné le riff des riffs des années 60.
I tried.
satisfaction.
C'était I Can't Get No Satisfactions par les Rolling Stones sur OxyWeb Radio. Pas facile de sortir un autre succès après le triomphe de Satisfaction. Avec Get Off of My Cloud, pourtant, ils vont y parvenir. C'est une chanson composée par les Rolling Stones, diffusée fin 1965, et le single se classa en tête des hit-parades aux États-Unis comme au Royaume-Uni. Et en fait, il a réédité le succès de son prédécesseur. Elle est également parue sur le 5e album américain du groupe, December's Children. La chanson exprime finalement l'agacement d'être dérangé dans ses rêveries sans préciser si celles-ci sont naturelles ou provoquées. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque, on commence à avoir des allusions plus ou moins ambiguës dans les textes des chansons anglaises et bien sûr les Stones n'y coupent pas. Les Rolling Stones ont indiqué que la chanson est une réaction à leur soudaine immense popularité, suite au succès de Satisfaction bien sûr, et traite de leur aversion aux attentes des personnes tournant en permanence autour des groupes, que ce soit les journalistes ou les groupies. Pour Keith Richard, Get Off of My Cloud était fondamentalement une réponse à tous ces gens qui venaient frapper à sa porte pour lui demander ce que nous voulions dire en fait dans la chanson Satisfaction. Et cela arrivait tout le temps, ce qui avait le don de l'énerver. Et comme il dit, ils ont sorti cette chanson, car il fallait aussi sortir quelque chose de fort après le succès de Satisfaction. Et à l'occasion, c'est encore une petite mésentente entre les musiciens. Case, toujours lui, voulait en faire une version soul, alors que le reste des membres du groupe voulait en faire un rock. Case dira que c'était l'une des plus mauvaises productions de leur producteur, Andrew Luke Oldman. Dans une entrevue datant de 1995, avec Rolling Stone, Mick Jagger a dit que c'était la mélodie de Keith d'un côté et les textes de Mick Jagger de l'autre. Je pense surtout que c'est la révélation de la capacité de création des deux compères qui n'allait pas se démentir pendant au moins la prochaine décennie. Voici donc Get Off of My Cloud, dégage de mon nuage.
Yeah.
C'était Get Off of My Cloud par les Rolling Stones sur OxyWeb Radio. La chanson suivante, Painted Black, a été composée par Mick Jagger et Keith Richards. Bien que tous les membres du groupe semblent avoir contribué à sa composition, et notamment Bill Wyman et Brian Jones. La chanson est sortie en single successivement des deux côtés de l'Atlantique à une semaine d'intervalle en mai 1966. Et dans les deux cas, elle a atteint la première place. En juin 1966, le titre est intégré à l'édition américaine de l'album Aftermath, encore un exemple de traitement différent entre les États-Unis et l'Europe. Painted in Black est une des chansons les plus connues des Rolling Stones, apparaissant fréquemment sur des compilations ou étant désormais presque systématiquement interprétée, encore aujourd'hui, lors des concerts du groupe. Dans le titre, la présence de la virgule va créer une polémique. En effet, selon que vous l'écrivez avec la virgule, on a l'impression que vous dites « peint ça noir », vous entendant « négro », alors que si vous la retirez, ça veut tout simplement dire « peint ça en noir ». Et c'est une nouvelle source de controverse pour le groupe qui sera traité de raciste par quelques activistes noirs américains. En conséquence, lors de la sortie d'Aftermath aux États-Unis, la virgule a été retirée sur la pochette. Mais c'est aussi l'arrivée des ambiances sonores moyen-orientales qui contraste fortement avec l'ambiance sombre et morbide des paroles de la chanson. Lors de l'enregistrement, après plusieurs heures de travail, Bill Wyman a suggéré une accélération du tempo de la chanson, et celle-ci quitte alors sa dimension soul pour devenir un rock, j'allais dire, moderne. Et Bill Wyman, encore lui, insiste pour le fait que tout le jeu de basse est lui qui l'a créé, même si plus tard, Keith Richards a minimisé son rôle, mais c'est pas étonnant vu la dégradation de leur relation par la suite. Ce qui reste vrai, c'est que Brian Jones, qui s'intéressait aux instruments de musique exotiques ou rares, ajouta le riff de sitar qui donne une coloration si particulière à ce morceau. Enfin, autre certitude, cette chanson était appréciée par les jazz américains au Vietnam et ils en ont fait un de leurs hits de référence là-bas, très loin de leur pays.
Girls will buy dressed in their summer clothes.
C'était Paint It Black par les Rolling Stones sur OxyWeb Radio. Autre chanson étonnante des Stones, c'est « Have you seen your mother, baby, standing in the shadow ?»« As-tu vu ta mère, chérie, se tenant dans l'ombre ?» C'est une chanson des Rolling Stones parue en 1966, d'abord sur une compilation, « Big Hits, High Tide and Green Grass », puis en single. Il s'agit de leur première chanson où apparaissent des cuivres. Écrite par Mick Jagger et Keith Richards, la chanson a été enregistrée vers la fin de l'été 66 pendant des sessions de ce qui deviendra l'album Between the Buttons, mais dont elle ne fera pas partie. Outre les cuivres, c'est l'une des premières chansons où se trouve utilisé le feedback des guitares, un effet qui va vraiment se répandre dans la pop de l'époque. On dit que c'était la première chanson écrite au piano par Keith Richards, quoiqu'il n'en joue pas sur la version finale. En effet, c'est Jack Nitz, l'ami du groupe et leur pianiste occasionnel, tout comme pouvait l'être Nicky Hopkins ou Ian Stewart, qui est crédité dans le personnel de la session, ainsi que le multi-instrumentaliste qui est Brian Jones, qui est également crédité pour la partie au piano. Mais quand le groupe a joué la chanson en playback dans Led Sullivan Show en octobre 66, Keith Richards est au piano et Brian Jones à la guitare. Mais à mon avis, ça ne veut rien dire du tout. La chanson est remarquable pour sa curieuse fin tordue réalisée avec une ou deux guitares, c'est pas clair, après que tous les autres instruments et les chants soient finis. Pour moi, elle représente l'influence de Brian Jones sur les sons créés par le groupe. Sortie en tant que single en septembre 66, elle est apparue simultanément au Royaume-Uni et aux États-Unis, ce qui sera une première pour le groupe. Le 45 tours est célèbre en Europe pour sa couverture montrant le groupe habillé en femme et aussi le film promotionnel de Peter Whitehead qui était une des premières vidéos musicales réalisées pour une chanson pop. You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow par les Rolling Stones sur OxyWeb Radio. Encore une chanson étrange avec We Love You, écrite par Mick Jagger et Keith Richards. Elle est d'abord sortie en single en août 67 avec en face B Dandelion au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, toujours, elle est arrivée à la 8e place des charts, alors que Dandelion, elle, a été promue en face A lorsque le single est paru aux États-Unis. Là, cette fois, Dandelion a eu la meilleure place et est arrivée à la 14e place. L'enregistrement contient une partie de Mellotron interprétée par Brian Jones et des chœurs auxquels ont participé John Lennon et Paul McCartney. Les deux morceaux du single étaient les derniers enregistrements des Rolling Stones qui ont reçu un crédit de production du manager du groupe, Arnaud Locke Oldham. La session d'enregistrement représente le dernier travail d'Oldham avec le groupe avant de démissionner de son rôle tant il commençait à être vraiment rejeté par Keith Richards et Mick Jagger. La composition de cette chanson survient peu après l'arrestation pour détention de drogue par Mick Jagger et Keith Richards. D'où le bruitage initial de la chanson qui correspond à l'ouverture et à la fermeture d'une porte de cellule dans une prison. We Love You adopte une position anti-establishment forte. En revanche, c'est aussi un message envers les fans qui les ont beaucoup soutenus durant la période d'arrestation. Par ailleurs, les paroles viennent en écho aux paroles de All You Need Is Love des Beatles, dont Mick et Kate ont participé à l'enregistrement. Un film promotionnel du single a été réalisé, toujours par Peter Whitehead. Cette chanson est révélatrice du basculement des Stones entre l'influence pure venant du blues et leur passage au rock psychédélique, dans la trace des Beatles. Heureusement, l'arrivée prochaine de Mick Taylor freinera cet éloignement au moins un temps du blues.
Thank you.
C'était We Love You par les Rolling Stones sur OxyWeb Radio. Heureusement, il y a encore de belles années pour les Stones à jouer du bon vieux rock. Et surtout, arrive Jumpy Jack Flash, qui est une chanson officiellement écrite et composée par Mick Jagger et Keith Richards, et sortie en 45 tours en 68. C'est l'une des chansons les plus populaires du groupe et l'une de celles le plus souvent jouées sur scène. Elle a aussi été reprise par de nombreux artistes, et je n'en citerai que trois, Aretha Franklin, Tina Turner et Johnny Winter. Bien qu'officiellement crédité, Jagger et Richards, l'origine de la composition de cette chanson est controversée. En effet, selon Bill Willman, la chanson serait née d'une improvisation entre Charlie Watts, Brian Jones et lui-même. En fait, ils attendaient Keith et Mick dans un studio et se sont mis à jouer et à improviser. Selon Keith Richards, la chanson a été écrite et composée avec Mick Jagger dans sa maison de Redlands. Mick Jagger fut réveillé par le bruit des bottes du jardinier de Keith, un certain Jack Dyer, se demandant ce qu'était ce bruit. Et Keith lui répondit « Oh, c'est Jack qui saute ». Et en anglais, ça se traduit par « Oh, that Jack, that jumping Jack ». Et Mick rétorque pour répondre « Flash ». Et les deux se mirent à jouer sur l'expression « Jumpy Jack Flash ». Dans la carrière des Rolling Stones, Jumpy Jack Flash marque un jalon important. Sortant de l'album psychédélique, c'est-à-dire Satanic Majesties, Request, le groupe cherche alors à retrouver un son plus direct, plus proche de ses racines rock et blues. Alors que l'influence de Brian Jones décroît, Mick Jagger et Keith Richards veulent en finir avec des expérimentations musicales en tout genre pour revenir à l'essentiel. Pour ce faire, ils engagent le producteur Jimmy Miller, réputé pour son travail avec Traffic et Blindface, deux groupes importants de Steve Winwood et Eric Clapton. Le résultat donne une chanson efficace, un standard immédiat qui propulse de nouveau les Rolling Stones à l'avant-garde du rock et donne un aperçu de leur album à venir, Beggar's Banquet. C'est aussi à partir de cette époque que Keith Richards adopte l'open tuning, à corps ouvert, jouant sur cinq cordes, reprenant ainsi la technique des vieux bluesmen américains.
Yeah.
C'était Jumping Jack Flash par les Rolling Stones sur OxyWeb Radio. Voilà, c'était notre premier rendez-vous de la saison, selon une formule que je qualifie de nouvelle et originale. Dans les prochaines émissions, nous évoquerons ainsi des artistes qui, entre 1965 et 1975, ont produit des albums plus ou moins directement influencés par le blues. Certains seront présentés pour montrer leur importance dans l'évolution de la musique de l'époque. En tout cas, j'essaierai de vous présenter les liens avec les bluesmen anciens et l'originalité apportée par les musiciens des années 60 et 70, tels qu'ils sont apparus à l'époque. J'espère que cette formule vous a plu et que vous nous retrouverez avec plaisir la semaine prochaine pour parler de Bob Dylan et de son album Highway 61 Resist. Mais d'ici là, roulez blues!